Non, je ne vais pas faire une conférence sur l'histoire du mur de Philippe Auguste construit vers 1200 parce qu'il partait aux croisades, etc. Tout le monde connaît ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre d'ailleurs à dire. Mais plutôt sur un ouvrage, donc. Il faudrait que vous allez voir, sont tirés d'un ouvrage sur toutes les enceintes de Paris, depuis l'enceinte gallo-romaine du 3e, 4e siècle, jusqu'aux fameuses fortifs dites de Thiers. En fait, on dit bien le mur de Philippe Auguste, pourquoi pas dire tout simplement le mur de Louis-Philippe, car c'est lui qui a décidé la construction de ce mur, Thiers n'étant que président du conseil et ayant imposé sa signature. Donc, j'ai fait ce bouquin en compagnie de Denis Prouveau, qui a fait la partie, disons, alors vraiment historique, sur l'histoire donc de la muraille gallo-romaine, sur celle de Charles V, les fermiers généraux, etc. Moi, j'ai fait la partie sur le terrain, un petit peu ma marotte. J'ai fait la même chose avec un autre ouvrage sur la Bièvre, c'est-à-dire découvrir, vraiment traquer les derniers vestiges. Il y en a beaucoup en ce qui concerne le rempart de Philippe Auguste, il y en a beaucoup qui sont quand même très connus des Parisiens. Mais il reste toujours des choses à découvrir, des endroits un peu cachés. Tout le monde connaît, par exemple, vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel livre sur Paris, que ce soit Illéré, etc. Vous avez tous en mémoire certainement la fameuse tour du rempart de Philippe Auguste, rue Guénégo, dans les locaux des éditions du Seuil. Je pense que les éditions du Seuil sont toujours là. Bon, on a la photo, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Alors ça, non, on n'a jamais ça. Il y a très très peu de photos, à ma connaissance, il n'y en a même pas, où on rentre vraiment dans la tour pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette tour. Il y a un escalier, il y a des appartements, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les caves? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus, le toit en poivrière, le toit pointu a disparu, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a à la place, etc. Alors ça, on a voulu absolument traquer tout ça, plus des endroits, parce que ce mur, finalement, il est bien, je ne vais pas dire qu'il est bien conservé. Il y a deux choses, il y a les vestiges et il y a les traces. Et en ce qui concerne les vestiges et les traces, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les traces et les vestiges, et surtout les traces de ce mur de Philippe Auguste, elles sont partout. Vraiment, il a été conservé. Il faut attendre uniquement 1850, la période haussmannienne, pour qu'à certains endroits disparaissent totalement du parcellaire certaines traces de ce mur. Je prends pour exemple simplement le percement du boulevard Sébastopol, de la rue Étienne Marcel, de la rue de Rivoli pour une certaine partie, la partie où nous sommes ici, puisque l'autre date de Napoléon Ier, et même celle où nous sommes ici, rue de Rivoli, où on commence à démolir en 1845, même plus tard, 1848, après la révolution de 48. Donc, vous voyez, en dehors de ces grands axes routiers, partout ailleurs, il est conservé. Et il est conservé, mais alors là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que il y a une histoire qui est assez amusante et qu'on a également avec cette rivière de Bièvre qui a complètement disparu, mais pas tout à fait disparu, parce que les gens qui bordaient, qui étaient les riverains à droite ou à gauche de cette rivière, les gens qui finissaient par construire de chaque côté de ce mur qui a été très vite déclassé, il n'a jamais servi à rien. Bon, tous ces gens-là, ils étaient marqués dans le parcellaire comme propriétaires de, voilà le mur. Ben moi, je suis propriétaire de ça, moi, je suis propriétaire de ça. Et après, on ne bouge plus. Et ça peut durer 17e, 18e siècle, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des propriétaires de la rive droite, en ce qui concerne une rivière. Et pour un mur, bon, ben, il y a le parement extérieur et le parement intérieur. Donc, ça ne bouge pas. En guise d'introduction, je vous montre toutes les enceintes de Paris. On reconnaît bien l'enceinte gallo-romaine dans une partie de l'île de la Cité. Vous avez ensuite une enceinte très peu connue des 10e, 11e siècles qui se trouve ici, qui partirait, disons, de la rue Charles Perrault, la mairie du 1er, sur laquelle, d'ailleurs, vous avez encore une plaque du 18e siècle marquée rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc ce n'est pas des fossés de Philippe Auguste, c'est vraiment des fossés de cette enceinte qui était probablement une enceinte faite de palissades. Il n'en reste donc pratiquement rien, sauf là encore quelques tracés sur le parcellaire. Et puis voilà, la plus importante, l'enceinte de Philippe Auguste, dont il reste de très nombreux vestiges, suivie par l'enceinte de Charles V, dont il ne reste absolument rien. Et pour cause, puisque cette enceinte, c'était un talus, en fait. On a creusé d'abord pour faire un fossé d'environ 10 mètres de largeur. Le résultat, tout ce qui a été enlevé a fait un talus de 10 mètres de haut, comme une espèce de négatif, hein, le fossé. Et puis le talus de 10 mètres de haut. Et c'est seulement en haut de ce talus qu'on a construit un mur. Quand Louis XIV a décidé de tracer les grands boulevards à l'emplacement de cette... C'est pas une muraille, c'est un dispositif de défense qui faisait quand même 80 mètres de large. Il y avait plusieurs fossés, plus donc ce talus surmonté par un mur. On a arasé, donc le mur qui était au sommet a été complètement détruit, il ne reste absolument rien. Rien du tout, sauf en pierre, j'entends bien. Alors il aurait pu rester les choses de la Bastille, mais comme vous le savez, elle a été démolie. Il reste quand même en pierre le mur de quai ici, de l'arsenal, qui est effectivement un mur qui a été rebâti en fait par Henri II, mais à l'emplacement même du mur de Charles V, de l'enceinte de Charles V. Et ces deux murs-là, le long de la rivière, qui s'appellent d'ailleurs les murs qui longent la rivière, qui rejoignent la tour du bois de l'enceinte de Charles V, et ici la tour, dont je ne me rappelle plus le nom, autour, la tour Barbeau ici, et la tour qui fait le coin ici de l'enceinte de Philippe Auguste. Voilà, pour protéger uniquement la rivière. Donc on fait un petit retour ici comme ça. Celui-là a été complètement détruit. Et celui-là dont on trouve... Actuellement on en trouve des traces, vous savez, il y a des fouilles là, juste devant la bibliothèque de l'Arsenal. Et on a retrouvé, on dit, le mur de Charles V. Oui, en fait, c'est ce mur qui longe la rivière, qui faisait partie du dispositif d'enceinte, et qu'on retrouve en fait dans le sous-sol de la bibliothèque de l'Arsenal. Très reconnaissable, son appareillage en grosse pierre et surtout avec des marques de tâcherons. Alors là, ça ne trompe pas, on sait que c'est effectivement un mur d'enceinte du Moyen-Âge. Alors cette enceinte, elle a été agrandie sous Charles IX, sous Louis XIII, c'est la fameuse enceinte des Fossés Jaunes, avec les premiers bastions. Bon, il faut voir qu'à côté de tout ça, je passe assez rapidement, il y a le tir qui a évolué, l'artillerie qui a évolué. Donc il y a le tir en parabole, après il y a le tir en ligne directe, enfin portant. Tout ça va profondément modifier la façon de voir la chose militaire. On ne va plus faire des remparts comme le rempart depuis Philippe Auguste. Il prend un boulet, ça y est, il est par terre. Déjà, je crois qu'il s'est rappelé qu'il disait quand une vase pétait à proximité du rempart, il était par terre. Alors d'autant plus un boulet de canon. Donc on va faire des bastions qui vont être ensuite... comme ce que va faire Vauban, comme va faire Louis-Philippe avec son enceinte qui est ici, des bastions qui sont au ras de terre, donc qui ne craignent pas le tir direct, des boulets, etc. Plus l'enceinte des fermiers généraux, qui n'est pas une enceinte, à proprement parler, c'est un mur d'octroi, donc ce n'est pas une enceinte fortifiée, et enfin le mur de 1840. Alors ça, vous avez la totalité donc, du mur de Philippe Auguste. Dans le sens, vous avez la tour donc, qui fait le coin. Vous avez, il n'a pas été représenté ici, le château du Louvre, qui est en dehors de l'enceinte, mais qui est quand même une défense extérieure à l'enceinte, on en parlera plus loin. Et puis après, vous avez toute une série de portes, de poternes. Voilà, il revient ici sur la porte Baudet, que vous connaissez, puisque c'est la porte Baudoyer, enfin c'est la place Baudoyer, puis ensuite la porte Baudet, qui est à l'emplacement du lycée Charlemagne, la tour Barbeau. Un canal probablement séparant l'île Notre-Dame de l'île aux Vaches, actuelle île Saint-Louis. Et puis on refait le tour ici jusqu'à la fameuse tour de Nesle. La hauteur de l'ouvrage varie entre, disons, 8 et 10 mètres. Ce n'est pas très 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 haut. Vous avez uniquement les tours qui font le coin, la tour Barbeau, la tour qui fait le coin, pour en parler, la tour de Nesle et la tour Nesle, qui sont des tours qui font 25 mètres de haut, qui sont vraiment de très grosses tours. Les autres tours, comme celles que l'on voit encore, par exemple, au lycée Charlemagne, sont des tours qui sont aussi hautes que le rempart, c'est-à-dire 8 à 10 mètres. Et puis, vous avez des tours un peu plus importantes au niveau des portes. Donc, de chaque côté, là, elles sont espacées de 60 mètres, hein, toutes. Sauf, donc, quand vous avez une porte comme la porte Saint-Martin, la porte du Temple, la porte Saint-Denis, vous avez une tour de chaque côté de la rue, des tours de 15 mètres. Des tours assez importantes, avec une défense assez importante, donc, et puis vous avez une ogive, simplement, enfin une porte ogivale au-dessus de la rue. Et après, sous Charles V, Charles V va agrandir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme ceci. Il ne va pas toucher du tout à la rive gauche, parce qu'elle est déjà défendue naturellement, c'est la montagne Sainte-Geneviève. Donc il ne va pas bouger, il va simplement faire en sorte, parce que n'oubliez pas que le rempart de Philippe Auguste, c'est un rempart sans fossé, il n'y a pas de fossé, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Il va juste là faire très attention à doubler ce rempart de Philippe Auguste sur la rive gauche par un fossé, qui va être en eau évidemment à proximité de la Seine, c'est-à-dire par ici jusqu'à la porte Saint-Victor, après c'est pas la peine, on est en hauteur, et après il va être également en eau de ce côté-là. Et il va surtout au-devant des portes Saint-Michel, porte Saint-Jacques, etc., il va faire des avant-portes. Enfin, les avant-portes, c'est tout simplement, il y a la porte, puis après, on construit des petites fortifications qui forment cette avant-porte avec des guichets, des ponts-levis, des tours, etc. Alors voilà, ça je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le plan donc du château du Louvre avec le donjon de Philippe Auguste. Et vous voyez que l'enceinte de la ville est extérieure au château proprement dit, que vous avez certainement visité ou dont vous avez du moins visité les vestiges dans les sous-sols actuels du musée du Louvre. Et on commence donc par la tour qui fait le coin, qui a complètement disparu. Alors voilà, ce fameux château du Louvre, ça fait partie des choses qu'on a voulu absolument montrer aux gens, parce que là, ils n'iront jamais, c'est dans les réserves du Louvre. C'est l'autre partie du fameux Louvre de Philippe Auguste que vous pouvez visiter au musée du Louvre, mais cette partie-là n'est pas visitable. Et de toute façon, ne regrettez pas trop, parce que vous voyez, il reste quand même pas grand-chose. Il y a juste marqué encore abri, mais ça, c'est de 1940. Voilà, alors ça, vous le connaissez évidemment, c'est le fameux donjon avec son fossé. Et voici l'ensemble de la fortification du côté oriental. Et le mur que vous voyez ici, c'est en fait le mur d'escarpe. C'est-à-dire celui qui se trouve juste en dessous de la muraille dont je vous ai parlé. Le mur d'enceinte. Alors celle-ci est assez intéressante parce que le Louvre n'est pas encore complètement terminé. Enfin, du moins le Louvre de Jean Goujon, le Louvre de la Renaissance, de Henri II, etc. Voilà, celui que l'on connaît, qui est vraiment typiquement Renaissance, c'est celui qui est là derrière, au fond, à l'ouest, disons, de la cour carrée. Tout ça a été refait, bien évidemment, par Louis XIV. Et regardez, curieusement, il reste encore une tour, non pas d'enceinte, mais une tour du château de Philippe Auguste, qui sera bien évidemment démoli plus tard. Et puis regardez ici, voilà la tour qui fait le coin. Donc celle-là, c'est la tour d'enceinte de la ville. Donc vous voyez, elle est quand même éloignée de quelques dizaines de mètres du château du Louvre proprement dit. Là commence véritablement notre enceinte. Vous auriez Saint-Germain-l'Auxerrois qui se trouve ici, et là, elle va continuer. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça n'existe plus, évidemment. C'est orné là de quelques niches à titre décoratif, mais c'est le fameux mur qui fait le bord de l'eau, le mur donc de Charles V qui rejoint la tour qui fait le coin avec la tour de l'enceinte nord-ouest de Charles V. Alors ça, donc, c'est le début de notre promenade. J'ai marqué en jaune le tracé partiellement repérable dans le parcellaire. Il y a des tracés non identifiables dans le parcellaire. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est les tracés en gris qui sont les endroits où il y a eu des gros travaux au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. J'ai cité tout à l'heure la rue Étienne-Marcel. Alors évidemment, autour de la rue Étienne-Marcel, vous voyez qu'il y a pas mal de gris parce que tout ça a été complètement modifié. Et j'ai oublié de citer tout à l'heure la rue du Louvre, tout simplement, où aussi il y a toute une partie qui a pratiquement, vous allez voir que pas entièrement, disparu. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vestiges. Alors quand je parle du parcellaire, ça veut dire, je parlais tout à l'heure des vestiges d'une part, c'est-à-dire en pierre, et d'autre part des tracés. Et le tracé, curieusement, donc je vous ai expliqué, le fait des propriétaires, etc. Il y a un parement intérieur, il y a un parement extérieur. Il est fait comment ce mur? Il est à peu près épais à la base de 3 mètres. Et ça va un petit peu en s'amenuisant vers le haut à 2 mètres. Il y a surtout qu'il y a un parement intérieur, c'est-à-dire que c'est côté ville. L'autre côté, un parement extérieur, donc côté campagne. Et puis entre les deux, on fait, que savaient déjà faire les Romains, d'ailleurs je vous le signale, on fait un blocage, c'est-à-dire qu'on va, entre ces deux murailles, qui sont belles à voir et puis quand même qui sont solides, mais on ne va pas faire du parement partout à l'intérieur, sur 3 mètres. Donc à l'intérieur, on met un peu de n'importe quoi. Enfin, c'est de la chaux, c'est du ciment d'époque, etc. Des cailloux, des morceaux de moellon, etc. Et ça va être extrêmement solide. Surtout avec la chaux qu'on met dessus, ça se solidifie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors les propriétaires, parement intérieur conservé. C'est-à-dire que le propriétaire qui a acheté la parcelle qui est ici, il va dire, il y a 2 mètres là, hein. Qu'est-ce que je vais en faire? 2,50 m multiplié par 4 mètres de large, un truc comme ça fait déjà pas mal de mètres carrés. Donc il va détruire ça. Et en plus, gros avantage, il va reposer sa maison sur le parement intérieur qui est solide. Il y en a d'autres qui vont faire le contraire. Côté ville ici, ils vont dire, bah non, ça ne sert à rien, on va foutre ça en l'air, et puis on va s'appuyer sur le parement extérieur qui est conservé. Et puis il y a des endroits, alors on regarde sur le parcellaire moderne, on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, pour une fois, on n'a pas bien suivi. C'est pas qu'on n'ait pas bien suivi, c'est qu'on a fait un raccord. Voilà, on avait conservé ça, on avait conservé ça. Puis on s'est dit, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire un truc en biais. Ce qui fait qu'il y a des endroits où on ne suit plus aujourd'hui sur le parcellaire. On se dit, tiens, pourquoi il y a tout d'un coup une ligne en diagonale alors que le mur est quand même en principe rectiligne? Non, ça s'explique uniquement par ce petit dispositif. Le mur a été construit un petit peu sur la rive droite, un petit peu avant 1200, vers 1185. C'est terminé en 1200, sur la rive droite c'est un petit peu plus tard, mais 1205, un truc comme ça. Et puis très 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 rapidement, il y a eu l'urbanisation et les gens ont commencé à construire de chaque côté. Elle n'a jamais servi cette enceinte, hein. N'a jamais servi. Donc on a profité et puis l'urbanisation quand même galopante, les gens ils sont servis, hein. Alors, ça, c'est notre premier, tout premier vestige. C'est le vestige que vous voyez là, marqué rue de l'Oratoire. Oui, alors, il faut vous dire aussi que, simplement sur le plan de Paris, je ne parle plus du parcellaire. Le parcellaire, c'est ce qui concerne les habitations proprement dit et le nombre de mètres carrés qu'elles occupent, leur délimitation officielle, etc. Mais comment ? Le cadastre. Voilà, le cadastre ou le parcellaire. Et vous avez en dehors de ça, donc, la voirie. Et la voirie, si elle n'est pas exactement à l'emplacement du mur, elle le suit en nombre d'endroits, soit qu'elle est installée, non pas dans le fossé puisqu'il n'y en a pas, mais la plupart du temps sur le chemin de ronde extérieur ou sur le chemin de ronde intérieur. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas de fossé. Oui, il n'y a pas de fossé, mais il y a quand même un chemin de ronde de chaque côté du mur, un à la campagne, un à les villes. C'est le cas de la rue de l'Oratoire, c'est le cas de la rue du Jour, c'est le cas de la rue Ticton, c'est le cas de la rue Mauconseil qui se trouve là, la rue Jean-Jacques Rousseau. Rue du Jour, c'est le chemin de ronde intérieur. La rue Jean-Jacques Rousseau, c'est le chemin de ronde extérieur. La rue de l'Oratoire, c'est le chemin de ronde intérieur. Voilà, etc. Et on va la retrouver après jusqu'à la rue de Sévigné. Il y a beaucoup de rues dans Paris qui n'ont pas été détruites, des rues anciennes, et qui correspondent effectivement. Mais attention, ce n'est pas le mur. C'est vraiment parallèle au mur, à quelques mètres près, etc. Mais ce n'est pas le mur à proprement parler. Alors ça, cette petite tour-là, elle se trouve, il faut le savoir, hein, c'est dans les sous-sols de l'oratoire du Louvre. L'oratoire du Louvre est construit exactement à l'emplacement du mur. Donc il passe exactement en dessous, au milieu de la nef. Il y a certainement des choses qui subsistent, on n'a jamais été fouillé là. C'est quand même bon, un monument historique, j'ai peut-être pas la peine d'aller dans les fondations qui sont de toute façon remplies, il ne doit pas rester grand-chose. Il y en a partout, on en a découvert partout des choses comme ça, et parfois on ne sait pas exactement ce que c'est, je vais y revenir tout de suite. Là par contre, il y a une vague forme circulaire sous l'oratoire, dans ce qu'on pourrait appeler le cœur. Et il y a ce bout de forme circulaire qui serait donc un vestige d'une des toutes premières tours de l'enceinte de Philippe Auguste. Et en tout cas, effectivement, quand vous voyez l'appareillage et le type de pierre utilisée, ce n'est pas du tout les pierres contemporaines de la construction de l'oratoire, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Alors voilà, c'est pris de l'oratoire, justement, on sort de l'oratoire. Et ce qui est très intéressant, et ça on retrouve ça assez souvent, même pour d'autres enceintes, regardez ces maisons qui sont bien strictement, apparemment du moins, perpendiculaires à la rue Saint-Honoré. Mais regardez les souches de cheminées qui sont complètement de travers. Ce qui fait qu'à l'intérieur, dans les appartements, eh ben, vous avez la même chose. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'appartement qui est ici, vous avez un mur qui fait ça. Et ça, c'est l'enceinte de Philippe. C'est-à-dire que là, on s'est appuyé, là encore. Là, c'est Paris, et là, c'est à la campagne. Bon, et ben, les gars qui ont acheté les parcelles qui étaient de chaque côté, ils se sont appuyés tantôt sur le parement extérieur, tantôt sur le parement intérieur. Puis, pour respecter quand même une certaine urbanisation, la façade était bien perpendiculaire à la rue, mais à l'intérieur, ça suit très précisément le... Là, c'est la rue Saint-Honoré, c'est quand vous sortez de l'oratoire du Louvre. Donc, la rue de l'oratoire, c'est le chemin de ronde intérieur. L'oratoire, c'est à l'emplacement du mur, vous sortez et hop, vous voyez en plus de ça le mur qui va bifurquer petit à petit. Bifurquer jusqu'à la rue du Louvre où il va s'arrêter, mais là encore, alors c'est pareil. Le mur qui est là, il est exactement à l'emplacement du mur, mais ça n'est pas le mur. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mur il fait 8-10 mètres maximum de hauteur. Ça fait quoi? Ça fait 3 étages. Là on est déjà à 4-5 étages. Bon, donc ça c'était rajouté, mais aussi... C'est-à-dire qu'on a profité des substructions solides du mur pour rajouter des étages. Et puis parfois on a dit, oh ben oui, mais on aimerait bien en profiter de ces grosses pierres. Nous, on n'a pas besoin de grosses pierres comme ça. Donc on a enlevé les pierres, on a foutu le mur en l'air, tout en gardant exactement sa forme, enfin son emplacement. Et puis on a mis des petits moellons. Puis les grosses pierres ont été utilisées à autre chose. On le voit bien ici. Alors ça, ce sont les pierres d'origine ici. Tout ça, déjà, c'est des beaucoup plus petits blocs qui ont été rajoutés. Et puis les derniers, alors là, franchement, hein, ça... Parce que là aussi, c'est pareil. Quand vous construisez une cage d'escalier dans ce genre de truc, Vous n'avez pas conservé des murs de 2 mètres d'épaisseur de la tour. Là aussi, on va grignoter. Donc, il va rester uniquement l'empreinte. Par contre, si vous allez regarder ce qui se passe en bas, parce que là, il y a une grille, vous allez voir la vraie épaisseur de la tour. C'est quand même autre chose, hein, par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Oui, là, il n'y a pas d'épaisseur. Et là, on voit très bien. Puis, regardez la taille des balances. Ce n'est pas de la rigolade comme les trucs qui sont là. Hein. Mais bon, tout le monde disait, ah, c'est la tour de Philippe Auguste. Bah, oui, c'est la tour de Philippe Auguste. Mais non, ce n'est pas vraiment la tour de Philippe Auguste. Alors, celui-là, pour le trouver, ça, c'est rue du Jour. C'est dans la seconde arrière-cour d'un marchand de tissus. Il faut monter au deuxième étage, sonner, je ne sais plus où, je ne me rappelle même plus l'anecdote. J'ai failli à un moment, je voulais raconter ça dans le livre, puis j'ai dit non, c'est hors sujet, soyons sérieux. Mais parfois, c'est des parcours du combattant. Et en plus, alors, je cite quand même le troisième larron, je vous l'avais dit, Denis Prouvot. Et le photographe, Emmanuel Gaffard, qui a fait un boulot extraordinaire. Parce que je vais vous dire, pour prendre cette photo-là, carrément, c'est les cordes, le machin, puis on descend du toit et tout. Alors, il y en a une encore pire, plus loin, mais il a fait vraiment des choses extraordinaires. Et là, on ne le verra pas aujourd'hui, mais pour l'enceinte de Louis-Philippe, par exemple, ou 1840, si vous préférez, on est descendu, mais c'est lui qui a pris les photos, parce que c'est un spécialiste des photos souterraines. Il en a fait pas mal, d'ailleurs, pour la Bièvre, que j'avais écrit avec notre ami Gérard Comte. Donc, on est descendu dans toutes les carrières qui se trouvent à l'aplomb des anciennes fortifications, particulièrement dans le 13e, 14e et 15e. Et où il y a d'ailleurs des inscriptions comme quoi le roi Louis-Philippe a mis fin aux travaux de consolidation de l'enceinte en 1842, je crois, etc. Donc il y a des endroits vraiment intéressants et évidemment totalement ignorés du public et totalement interdits au public. Là, c'est pas interdit, mais franchement, il faut avoir l'autorisation de pas mal de gens qui habitent là, ce qui est quand même normal. Alors voilà encore autre chose qu'on ne verra jamais, parce que là c'est un terrain militaire, parce qu'il faut aussi des autorisations des particuliers, mais vous avez l'armée, parce que là c'est une caserne de pompiers, et caserne de pompiers à Paris, comme vous le savez, c'est l'armée. Donc il faut une autorisation du commandant de la place de Paris, ça s'appelle toujours comme ça, comme si on avait toujours des fortifications. On apprend beaucoup de choses. Hein. Alors voilà, ce malheureux mur, il est là, alors on le voit très bien sur le cadastre, sur le parcellaire, on voit très bien qu'il passe là, mais où est-il ? Est-ce que c'est pas un faux ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été construit dessus ? Non, là c'est du vrai. Là c'est du vrai et ça c'est le parement côté ville, le parement intérieur. Alors de l'autre côté, bah, c'est pas trop ce qu'il y a, c'était découpé, démoli. Mais bon, ça c'est un petit bout qui est vraiment authentique. Dans le sous-sol donc de la caserne de la rue du Jour, à côté de Saint-Eustache. Et alors là, c'est aussi assez curieux ça. La tour Jean sans peur, vous la connaissez, c'est pas Philippe Auguste, c'est donc le duc de Bourgogne, c'est là on est en pleine guerre de Cent Ans, c'est plutôt contemporain de Charles V. Sa fameuse tour ressemble probablement au type de tour carrée et non pas ronde qu'il y avait sur le talus du rempart de Charles V. Et quand vous pénétrez dans cette cour aujourd'hui, vous avez la surprise sur la gauche à l'entrée d'avoir une tour, enfin un bout de tour, un quart de tour, avec une entrée qui, curieusement, était donc côté campagne, mais qui a dû être certainement faite après, et qui donne sur l'intérieur de la tour de Philippe Auguste. Non pas sur laquelle a été bâtie la tour de Jour sans Père, mais sur laquelle il s'est appuyé. Alors, je reviens à la photo précédente, et la voilà au-dessus. Donc, on a dit, mais cette tour, en fait, jusqu'où elle va ? Eh bien, on la retrouve, vous voyez. Ah, voilà la tour de Jour sans Père. Et puis, la photo précédente que je vous ai montrée, je vous ai dit, sur la gauche, en rentrant, on voit cette tour qui est ici. Donc assez loin quand même de la tour par elle-même. Il y a le fabuleux escalier qui se termine par une espèce de palmier extraordinaire en sculpté. Et voilà le dessus, puisque je vous disais tout à l'heure, on a essayé de rechercher un petit peu tout ce qu'il y avait. Le dessous, on l'avait dans la tour Jean sans peur. Le dessus, il est là, dans une petite cour qui donne sur la rue française. Voilà. C'est pas bien beau, c'est pas bien intéressant, mais c'est vraiment la trace. Vous voyez bien que les pierres, c'est pas des pierres de l'époque de Philippe Auguste, mais c'est la trace de cette tour sur laquelle on a fini par construire. Donc, si vous avez bien compris, vous avez cette tour à l'intérieur en rentrant à gauche, et donc normalement, vous allez me dire, alors le mur devait se continuer à droite, oui, mais on ne le voit pas, parce que là, tout a été profondément modifié, mais on va le voir au sous-sol. Voilà le vrai mur. Donc ça, c'est le parement extérieur, c'est-à-dire côté campagne. Et la tour de Jean sans peur est construite au-dessus, donc en dehors de la limite du Paris de Philippe Auguste. Alors ça, c'est rue Tiquetonne. Il y a 5 ou 6 étages, ça fait quand même du 15 à 18 mètres de haut. Je vous ai dit, pas plus que 8-10 mètres. Déjà, vous pouvez être sûr, pourtant la belle allure, hein, mais déjà, vous pouvez être sûr que c'est pas du vrai. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, à l'intérieur, ça donne du côté de la rue Étienne-Marcel. À l'intérieur, c'est une cage d'escalier, une fois de plus. On a profité de la substruction parce que la tour existe, les substructions existent. J'ai essayé d'aller les découvrir. On n'a même pas pris la photo parce que on n'est pas bien sûr. Je suis descendu donc en passant par la cour de la rue Tiquetonne. Là, il y a un imprimeur qui fait, si ça existe toujours, c'est la revue Opéra. Très aimablement, il m'a ouvert ses portes, il m'a dit « Regardez, regardez, regardez ». Je suis descendu également, très aimable concierge du côté de la rue Étienne-Marcel. En fait, je me suis retrouvé devant des grosses pierres, un peu semblables à celles-ci. Ce sont des pierres certainement anciennes, mais probablement de récupération, mais ce n'est pas la vraie tour, de toute façon, vu l'étage, ce n'est pas possible. Et dans le sous-sol, c'est pareil, vous tombez sur des grosses pierres qui semblent, on se dit « Ah bah ça y est, c'est bon », mais juste à côté, vous avez la même chose en briques. Et puis il n'y a pas de marque de tacheron. Et ça, je vais vous dire franchement, partout, c'est vraiment authentique, il y a toujours des marques de tacheron. Mais bon, ça vaut le coup de voir. Alors ça, par contre, la photo, si vous rentrez dans la cour de la rue de Tiquetonne, vous ne verrez pas ça. Ça, il faut enjamber des balustrades, aller chez des gens, chez des particuliers. Mais vous savez, c'est extraordinaire parce qu'on dit toujours oui, les Parisiens. Les gens ne vous accueillent pas et tout. Partout, 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 sur des centaines, franchement, de fois, on a eu peut-être deux petites histoires qui sont d'ailleurs bien terminées. J'ai toujours eu des réponses, mais vraiment dans des endroits complètement perdus où des gens au téléphone, là, mais oui, mais. Et même qui étaient là, ravis de dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi ça à tel endroit? Bon, des fois c'était des bêtises, mais pour dire que les gens étaient vraiment intéressés, on n'a jamais eu de problème. Un jour, j'ai même été obligé pratiquement d'engueuler une vieille dame en disant, mais enfin, vous ne savez pas qui je suis, et vous m'ouvrez votre porte, oui, on monte sur le balcon et machin, etc. Mais vraiment des gens charmants la plupart du temps et vraiment intéressés. Ou ils ne savaient pas, ils ne demandaient pas mieux que de savoir, ou ils croyaient savoir. Enfin bon. Alors, c'est marqué en toutes lettres et vous connaissez tout ça, ces nombreux écriteaux qu'on a mis à la fin du 19e siècle. Il y a la rue Turbillon aussi qui a foutu en l'air pas mal de choses. Voilà. Alors, ce qui est intéressant juste ici, c'est l'impasse des peintres qui est, une fois de plus, l'emplacement du chemin de ronde extérieur, côté campagne. Je fais appel à la mémoire de certains d'entre vous qui seraient du quartier depuis fort longtemps. J'étais à peu près sûr, maintenant je ne sais plus, d'avoir vu exactement ici une niche autrefois, mais j'avais quoi? J'avais peut-être une dizaine d'années, avec une vierge, dont certains disaient que c'était la statue de la Vierge qui se trouvait sur la porte à Saint-Denis. Ça vous dit quelque chose? Personne? J'ai peut-être inventé, hein. Je me rappelle que quand j'ai fait ce livre, j'étais pas retourné là depuis un bout de temps. Et tout de suite, j'ai levé la tête. Ah, ma mère, la niche a disparu. Et peut-être qu'il n'y a jamais eu de niche, ou peut-être que je confonds avec une niche ailleurs. À 10 ans, on invente des trucs. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, d'après vous?
C'est la rupture.
Oui, c'est-à-dire les souches de cheminée, une fois de plus, voilà. C'est pré-haussmannien, c'est Rambuteau. C'est rue Rambuteau et c'est le préfet Rambuteau, donc c'est 1835-1840, 1840 plus exactement. Il y a des tas de maisons qui sont assez intéressantes avec des têtes Renaissance, enfin des espèces de François Ier. Et là, donc, c'est la muraille qui bifurque. Le chemin de ronde extérieur, c'est le passage Saint-Avoir. C'est juste en face du musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans lequel, d'ailleurs, je crois qu'on va avoir les photos après. Quand vous rentrez dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme, sur la gauche, vous avez un mur qui est une fausse façade. C'est-à-dire que pour faire pendant la façade qui se trouve du côté nord, côté sud, vous avez une façade. On dit, ah ben, oui, mais on s'aperçoit qu'elle est aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mur de Philippe Auguste arrangé. Donc, il n'a pas repris les pierres de Philippe Auguste non plus. Il a tout foutu en l'air. Il a fait des très belles pierres de taille, c'est sculpté, etc. Et on a une façade vraiment classique, mais qui est juste à l'aplomb du mur de Philippe Auguste. Ça, là-dessus, je suis formel, c'est l'emplacement exact. On a profité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle de ce mur, qui était quand même solide, de ses parements en tout cas qui étaient solides, pour servir de substruction. Donc il y a ce passage Saint-Avoie, là c'est pareil. J'ai été chercher vraiment dans toutes les caves du passage Saint-Avoie, côté donc Paris, lui étant le passage Saint-Avoie, le chemin de ronde extérieur. J'ai rien trouvé. Tous ces immeubles-là ont été refaits donc vers 1840. Ça veut dire que là, même si on a respecté le cadastre, les pierres, on s'en foutait. Il fallait construire des caves, on n'avait pas besoin de blocs de pierre comme ça pour construire des caves. Donc ça a été remployé ailleurs. Il ne subsiste rien. Le tracé, confondant pas, il y a vestiges et tracé. Le tracé, lui, il est toujours là. Mais il n'y a plus rien vraiment Le voilà le fameux mur. Donc vous avez la rue du Temple de ce côté-là. Et puis là, vous avez donc ce mur. On vous a aperçu tout à l'heure la prolongation sur ces souches de cheminées de la rue Rambuteau avant la rue des Archives. Et là, de l'autre côté, donc, vous avez le passage Saint-Avoie. Et voilà le chemin de ronde extérieur qui serait ici. Vous voyez, c'est un faux mur. Il n'y a pas de fenêtre.
C'est une réussite. Ouais. Et alors, il se prolonge jusqu'au musée de la poupée, hein, qui est impasse Berthault, où il y a derrière une vitrine, malheureusement, il y a une vitrine, maintenant on ne le voit pas, mais il y a effectivement là une énorme pierre, bien typique de l'enceinte de Philippe Auguste, qui se trouve cachée par une vitrine. Enfin bon, c'est une pierre, je veux dire. C'est... Quand vous êtes d'ailleurs rue Beaubourg, à cet emplacement-là, vous avez l'impasse du Mour, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la rue aux Ours. Quand vous passez la rue aux Ours en descendant donc vers l'hôtel de ville, vous avez après le fameux quartier de l'horloge. Il y avait des choses tellement belles, la rue Brantôme, enfin des trucs comme ça, le passage de la Réunion, c'est des traboules, ça, tout a été foutu en l'air. Il reste l'impasse du Mour, mais qui était une impasse déjà qui avait été complètement refaite au début du XXe siècle, c'est des immeubles de rapport. On a respecté vaguement son emplacement, qui est l'emplacement là encore du chemin de ronde extérieur. Et en face, dans la rue Beaubourg, donc sur le côté gauche, donc le côté gauche en descendant vers la Seine, ça doit être les numéros pairs, vous verrez, malgré toutes les façades qui sont vraiment bien perpendiculaires, une fois de plus, à la rue Beaubourg. Quand vous rentrez, vous ouvrez les portes cochères, vous allez voir le couloir.
Non,
il fait ça comme ça, complètement en angle. Voilà la fin de notre promenade. Donc on était... Oui, les poternes, la plupart des poternes ont été ouvertes après Philippe Auguste, sauf la poterne Barbette. Là, vous avez donc des petits bouts de tour, on va les découvrir. Voilà le jardin du musée d'art et d'histoire du judaïsme et le musée de la poupée. On retrouve bien, puisque c'est en rouge, c'est le tracé qui est conservé. Puis on va trouver encore une tour ici, et puis un bout de tour ici du côté de la rue des Rosiers, qui elle aussi est plus ou moins, non, elle n'est pas parallèle au mur, mais enfin on pourrait penser qu'elle est tracée selon le chemin de ronde intérieur. Et puis on va redescendre par chez vous, de ce côté-ci, on en parlera plus tard, avec la poterne Saint-Paul. Alors là, une découverte, vous allez voir, qui va peut-être vous surprendre. Et puis les tours que vous connaissez, les jardins Saint-Paul, et la tour Barbeau qui a complètement disparu. Voilà celle que vous connaissez certainement, qui se trouve chez ma tante, comme on dit, c'est-à-dire Crédit Municipal. Bon, elle a été complètement défigurée, vous voyez. Mais enfin, là, on sait que ce qui reste, c'est du vrai, mais vous voyez, les colmatages en briques, c'est déjà magnifique que ce soit resté comme ça. Donc là encore, c'est un escalier à l'intérieur. Hein. Puis alors, ce qui est intéressant, c'est le fossé qui est ici, qui n'est pas un fossé, je vous ai dit, il n'y en avait pas, c'est l'ancien niveau. Il ne faut pas oublier qu'un peu partout, il y a presque jusqu'à 6 mètres, hein, très souvent 6 mètres de remblai. Là, il y en a 2 ou 3. Il ne faut pas oublier que le Paris, cette époque-là, est quand même en dessous de... vous avez un bel exemple pour ça, c'est Saint-Sulpice, la crypte de Saint-Sulpice, qui n'est autre que l'ancienne église Saint-Sulpice, et qui est maintenant une crypte. Donc qui est vraiment souterraine, alors que normalement, elle était au niveau de la rue. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup de voir cette ancienne église Saint-Sulpice, qui est une crypte, mais l'église actuelle, même si elle est orientée vers l'est, au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, on oriente les églises de la même façon, c'est visible sur un plan de Paris. Et après, on s'en fout. Nord-Sud, etc. Bon, la plupart des églises de l'époque classique, 17e, 18e. Regardez Saint-Paul, le chœur, au lieu d'être vers l'est, il est vers le sud. Bon. Donc on finit par s'en moquer complètement. À Saint-Sulpice, elle est quand même à peu près bien orientée. Mais la bonne orientation, elle est dans la crypte. Quand vous descendez dans la crypte, vous vous apercevez qu'elle, elle est bien orientée, l'église, elle, non. Il y a un léger décalage. Et ça vaut le coup parce que vous voyez, c'était conservé jusqu'à hauteur du premier tiers des vitraux gothiques. Et il y a des grandes espagnes qui sont enterrées là, à un charnier. Bon, je sors du cadre, mais je vous l'indique parce que ça vaut le coup. Alors là, voilà, la même, affublée de ce ridicule habillage néo-byzantin. Là, ça montre bien ce qu'on a fait de ces tours qui ont été conservées. Quels escaliers ? Bah, qu'à cela ne tienne, allez hop, ça peut servir. Puis devant, vous avez un pavage moderne aussi, mais qui indique bien le tracé de l'enceinte, vous voyez, qui est quand même en biais par rapport à la rue des Francs-Bourgeois. Alors, je vous parlais tout à l'heure des autorisations pour les pompiers, l'armée, la police, etc. Le pire, c'est l'éducation nationale. Ils sont gentils, hein, mais alors surtout quand il s'agit là de maternelle et de primaire, c'est à la fois le rectorat, mais c'est aussi la ville de Paris, la mairie. On a réussi, mais vraiment, c'était pour prendre ça. Alors, ce qui est intéressant, là, on le voit très bien, non pas le mur, vous avez compris, mais donc ce qui est à l'emplacement du mur. La cheminée, ça n'a rien à voir avec Philippe Auguste, mais je le signale parce que c'est quand même la dernière cheminée, dernière du patrimoine industriel du quartier. Il n'y en a pas beaucoup des cheminées comme ça. Donc celle-ci, elle a
subsistait l'entrée sur des Frambourgeois, je ne sais plus comment s'appelle cette industrie, les cendres, voilà, c'est ça, où ils récupèrent même les anciens bijoux, les dents en air, des trucs comme ça. Maintenant, c'est fermé, mais à l'intérieur, c'est très, 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 très beau. Je ne sais pas si vous avez pu visiter, c'est extraordinaire. Et puis, il y a les fours au sous-sol, enfin, les montes charges.
Ils ont mis
ah, d'accord.
Ça fait partie de la décoration.
Petite anecdote, mais vous le savez certainement, l'école en question. Bien avant l'école publique de Jules Ferry, celle-ci, elle date du règne de Louis-Philippe, sous le mode mutuel juif. C'est marqué encore sur l'autre fronton. On arrive à déchiffrer encore école de garçons juifs sous le mode mutuel, etc. C'est pas une école confessionnelle, c'est une école publique réservée aux enfants de confession juive ou israélite, pardon. Vous avez la rue des Rosiers qui est là, vous avez la rue des Frambourgeois qui est là, et là vous avez le marché des hospitalières réservées. Voilà. Donc c'est sur l'autre fronton surtout que vous le verrez bien. Puis entre les deux, il y a les deux têtes de taureaux célèbres qui proviennent en fait du marché. Alors voilà, à l'intérieur de la cour de l'école, le mur qui nous a donné tant de mal, on l'a gardé quand même s'il présente aucun intérêt. Sauf qu'on l'a essayé, certains ont essayé de faire, vous voyez, des petites fenêtres dans le mur pour montrer ce qui serait probablement le parement réel. Mais enfin bon. On voit tellement peu de choses que, alors admirons plutôt les baleines qu'ont descendu, les pieuvres et les poissons qu'ont dessiné les enfants. Alors, celle-là maintenant vous allez la voir beaucoup mieux parce qu'elle a été complètement restaurée. C'est le fameux jardin des rosiers. Donc on peut rentrer par la maison de l'Europe, rue des Frambourgeois. Alors, personne n'y va parce qu'on rentre dans un truc et puis en fait c'est derrière. Et puis il y avait un petit jardin. Moi j'ai connu ça. De ce côté-là, il y avait des ateliers. Hein. Et puis alors, c'était en projet. Et maintenant, donc, ce jardin de la Maison de l'Europe, il est relié à un jardin qui se trouve donc ici derrière. Tout ça, ça a été démoli. Et vous descendez par la rue des Rosiers, par le 10, je crois. Donc, vous pouvez aussi rentrer tout simplement par le 10, rue des Rosiers. Et alors, c'est l'intérieur d'une tour. Donc, j'avais vu le parement extérieur chez un ami qui possédait des ateliers ici. Et qui me disait, oh, c'est des pierres, c'est pas intéressant. Et bien que j'ai même pas pu le photographier, mais je m'en fous, puisque maintenant elle est beaucoup plus belle. Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'intérieur de la tour, ça appartenait à l'hôtel d'Albret. Et les seigneurs qui habitaient là se sont amusés à faire ce qu'on appelait à l'époque, au 18e, une folie, où on faisait de la musique et puis d'autres choses, surtout d'autres choses. Vous voyez, ça a été décoré dans l'esprit classique 18e, avec des fausses arcades à l'intérieur de la tour qui, elle, est authentique, et le mur qui se continue ici. Et alors ça, nous sommes donc à l'ancienne porte Baudoyer, la seconde du nom, puisque la première est devant la mairie du 4e arrondissement. Et là, vous avez un bel exemple, donc c'est le petit passage qui mène le long de l'église Saint-Paul, qui mène au lycée Charlemagne. Et là, vous avez un exemple de mur en baïonnette, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous êtes parement intérieur, et là, vous êtes côté parement extérieur. Vous voyez, tout ça, ça a été crépi. Probablement, ça a été complètement refait. On a construit, une fois de plus, sur les substructions authentique du mur. Je suis rentré quand même par l'immeuble qui est à côté de la pharmacie, la rue Saint-Antoine à côté, pour aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des parements en gros moellons. Ça peut être authentique, ça peut ne pas l'être. Je vous dis, c'est très difficile à savoir parce qu'on a tellement construit et reconstruit dessus que l'emplacement, oui, une fois de plus, il est exact, mais les pierres qui y a, voilà. Par contre, il y a une tour dont personne ne parle. Est-ce que vous la voyez ? C'est le lycée Charlemagne, c'est le concierge du lycée Charlemagne, donc c'est au bout de la photo que je viens de vous montrer. Alors, il faut le savoir, il y a effectivement une tour qui a été complètement noyée dans toutes les autres maçonneries, mais il reste quand même la trace d'un quart de la tour en question, qu'on arrive à voir en rentrant par la rue Saint-Antoine, du dernier étage de l'immeuble qui est là dans la cour. On aperçoit très très vaguement. Mais là, la photo est exceptionnelle parce que c'est le fameux photographe Manuel Gaffard dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, c'était vraiment le harnais, machin, etc. Il montait en haut de l'église Saint-Paul. Il montait sur le lanternon du dôme de l'église Saint-Paul pour pouvoir avoir la photo. Alors là, c'était vraiment un exercice. Alors donc, j'y tiens beaucoup à cette photo parce que c'est son histoire aussi qui vaut son pesant d'or. Bon, alors ça, tout le monde connaît évidemment. Avec l'ouverture de la rue Charlemagne qui a démoli plus de la moitié de cette tour. Donc il y avait de chaque côté de la poterne une tour. C'est celle qu'on appelle la tour Montgomery. où aurait été emprisonné le capitaine des gardes écossaises d'Henri II lorsqu'il y a eu ce tournoi en 1559 rue Saint-Antoine pour les fiançailles de la fille d'Henri II, je ne sais plus laquelle, avec le roi d'Espagne, machin. Le capitaine des gardes écossais en question a envoyé sa lance qui s'est brisée dans l'œil d'Henri II. Il y a eu trois combats en fait, le premier remporté par le roi, le second remporté par le roi. Le troisième, les lances se sont brisées et il a voulu continuer. Les lances sont à nouveau brisées, mais là, le capitaine, normalement, d'après le règlement, il doit jeter sa lance. Il n'a pas eu le temps de l'acheter. Il a forcé donc la visière du roi qui a mis 10 jours à mourir. Ça devait être assez atroce. D'où le nom de tour Montgomery. Moi, j'ai fait mes études au Charlemagne. Cette tour nous servait d'escalier pour descendre sur le stade. On ne voyait pas bien, en fait, ce qui se passait à l'intérieur. Alors, il y a eu, bien avant, moi, je ne les ai pas connues, les maisons. Elles ont été détruites juste après la guerre, je crois, où, effectivement, c'est tout un quartier qui a été déclaré insalubre. Les maisons sont appuyées, là, une fois de plus, sur le mur en question. Donc, on a une photo où on ne voit pas le mur. On aperçoit son tracé parce qu'on voit le lycée Charlemagne. Et qu'on se dit, ah bon, tiens, le lycée Charlemagne, la muraille est là, et là, c'est un quartier tout à fait populaire. Et donc, alors, moi, je connais bien l'endroit, mais on ne rentrait pas vraiment à l'intérieur. Derrière, entre le lycée qu'on aperçoit et la muraille, il y avait une espèce de charpente qui servait de gymnase. Le mur, l'intérieur du mur, était complètement masqué. Voilà le nouveau gymnase. Et là, ils ont dégagé le mur. Et là, c'est le parement intérieur, donc côté ville. Et ça, je ne l'ai pas connu. On peut rentrer dans les tours, mais ça ne présente pas un intérêt particulier. Sauf que je n'avais jamais vu l'intérieur des tours et je l'ai eu. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que là vous avez vraiment les marques de tâcherons que normalement vous devez, pour être sûr que c'est authentique, rencontrer sur toutes les pierres pratiquement, en tout cas sur au moins 2 ou 3 sur 4 de l'enceinte de Philippe Auguste et également de Charles V. La croix qu'on rencontre très souvent et ce signe-là qui a été repris par les francs-maçons, qui est le rectangle qui signifie la loge des architectes évidemment à l'époque, des tailleurs de pierre. Le carré long, c'est ça. Oui, pas rectangle, carré long. Bah ça voilà, c'est le fameux chenal avec la tour Barbeau ici, voilà les tours qu'on vient de voir de l'enceinte de Philippe Auguste. Et donc dans le prolongement c'est la rue de l'Ave Maria qui est ici, les jardins Saint-Paul, et vous avez juste en face qui est aujourd'hui la rue Le Regrattier je crois dans l'île Saint-Louis, qui était probablement ce fossé où dit-on il y a eu aussi des tours de chaque côté et un mur ici et qui permettait de barrer la Seine avec des chaînes entre la tour Barbeau, l'île et la Tournelle. Ben voilà. Super. Ben alors, si vous avez des questions, ben, je suis là pour eux.
Pourquoi ils l'ont construit? Il n'a jamais servi. Alors, c'était
quand il est parti aux croisades. Tout simplement, quand il est parti aux croisades, et qu'il y avait les Anglais qui commençaient à remuer le bout du nez de l'autre côté de la Manche, il n'a pas voulu laisser Paris en défense.
D'accord. Ça n'a jamais servi parce que...
Jamais, parce que ça a été tout de suite. Il y a eu très rapidement toutes les histoires de la guerre de Cent Ans qui fait que les Anglais, de toute façon, ils sont rentrés. Les Parisiens leur ont ouvert les portes. Il y a eu les querelles intestines entre Bourguignons, Armagnac, etc. Il n'a jamais servi. Il a servi juste à tuer Étienne Marcel, qui a voulu rentrer par la porte Saint-Antoine, et puis on lui a fermé la porte au nez, il s'est fait assassiner ou un truc comme ça. Mais du point de vue militaire, il n'y a jamais eu...
Il y a eu Jeanne d'Arc aussi.
Ah, Charles V. Alors ça, c'est le mur de Charles V. C'est la porte Saint-Honoré, où il y a eu une escarmouche, effectivement, où elle a essayé de traverser les fameux fossés. Et le dos d'âne, il y avait donc un petit fossé, un dos d'âne, un grand fossé, le talus. La porte était bien gardée. C'est indiqué dans les vigiles de Charles VII, je ne sais pas trop quoi. Il y a une enluminure également. Et on la voit qui met des fagots de bois dans le petit fossé, donc avant de traverser le talus, il y a encore le grand fossé, et là, elle se fait prendre un carreau d'arbalète dans la cuisse.
Paris n'a pas eu beaucoup de chance avec ses enceintes, en fait, en tant que défensive.
Alors, la gallo-romaine, elle a servi pratiquement à rien. Elle a servi quand même à l'arrivée des Vikings. Ah, oui, elle a résisté avec la forteresse qu'on avait construite à côté du petit pont. Oui, c'est un peu de la légende, parce qu'on la voit, en fait, on la voit sur le pont de la Tournelle, l'espèce de suppositeur dû à Landowski, Belmondo. Mais non, les uns ne sont pas venus jusque-là. Non, même là, elle n'a pas vraiment servi. Charles V, donc, il y a une escarmouche à la porte Saint-Honoré. Les bastions de Charles IX, Louis XIII n'ont jamais servi. Ah, il y a eu le siège de Paris par Henri IV.
Mais ça ne l'a pas servi non plus, puisque Paris vaut bien une messe et hop, les portes se sont ouvertes toutes seules. Il n'y a jamais eu de bagarre. Et la seule qui est vraiment servie, c'est celle de Louis-Philippe, celle de 1840.
Au moment de la Fronde aussi.
Au moment de la Fronde, il n'y a pas eu grand-chose. Il y avait la grande mademoiselle qui tirait du canon du haut de la Bastille. Ouais, ça pas, non, on ne peut pas dire que militairement, ça n'a servi à rien.
Même celle de 1840, c'est plutôt été les Parisiens qui ont été enfermés plutôt.
Bah, il y a eu quand même le bombardement de Paris. Les Prussiens seraient rentrés dans Paris quand même beaucoup plus facilement s'il n'y avait pas eu les fortunes.
C'est ça. Oui.
Et puis après, ça n'a même pas servi à la Commune. Au point du jour, un drapeau blanc, et puis il n'y avait personne, ils étaient tous en train de faire la fête aux Tuileries. Alors, je dois dire que c'est assez invraisemblable. Ah oui, alors il y a eu toutes ces escarmouches avec les Cosaques et les compagnies, c'était au but de Chaumont, c'était quand ils sont arrivés par là-haut, c'était la prise de Montmartre, où il y a le meunier, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été crucifié sur les ailes de son moulin. Il y a eu aussi une fosse à Purin énorme qui était absolument dégueulasse. Les Français se sont mis derrière, les Cosaques ont voulu rentrer dans le tas et ils sont tous noyés dans la merde. Enfin, il y a eu des tas de trucs, mais... C'est pas de l'art militaire, hein, voilà.
Non, parce que je croyais que c'était Place Clichy.
Ah, Place Clichy, Place Clichy. Alors, la barrière des fermiers généraux, qui n'est pas une enceinte, qui est un mur de toit, a servi effectivement de lieu de ralliement dans un point stratégique au général Moncey pour effectivement essayer de retarder l'avancée des alliés. Et la seule donc qui aurait peut-être servi militairement n'était pas une enceinte militaire.
Vous avez parlé d'un écart entre les tours de 60 mètres.
Oui.
Militairement, ça avait un sens, c'est que la portée d'une arbalète, c'était
30 mètres. C'est ça. Voilà, donc tir croisé d'arbalète, 30 et 30, 60. Exact. Bravo.
Alors, quand vous montrez une photo comme la rue du Louvre, oui. Là où, de la rue, on voit très très bien.
Oui.
Et vous dites que c'était une cage d'escalier. Maintenant, il n'y a plus de cage d'escalier.
Ah non, il n'y en a plus, elle a été détruite. On suppose qu'on voulait y faire une cage d'escalier. Et la rue du Louvre a été ouverte au travers de la maison à laquelle elle devait appartenir. Comme beaucoup d'autres tours de Philippe Auguste, enfin comme certaines, on pensait l'utiliser comme cage d'escalier. Et là, ça n'a pas été le cas, effectivement. On ne voit même pas d'ailleurs l'empreinte, on pourrait voir encore des empreintes d'attache de marche et trucs comme ça, non, il n'y a rien.
Il me semble qu'il y a un bout d'enceinte à l'intérieur d'un garage, cette rue de la Seine.
Ah oui, mais ça j'en ai pas parlé, c'est la rive gauche. C'est la rive gauche, mais effectivement, alors c'est là justement qu'on a fait un gros travail, parce qu'il y a la tour dans le garage, mais elle existe au-dessus aussi. Donc on a été au-dessus pour voir. Au-dessus, elle est dans une salle de spectacle, derrière un piano à queue, je t'ai noué. Au-dessus, elle sert de cabinet à un kiné, à l'intérieur de la tour. Et puis, de l'autre côté du garage, en fait, vous la retrouvez chez les particuliers. Mais là, vous voyez l'intérieur, vous pouvez rentrer dedans. Donc c'est extrêmement complexe. Vous avez le garage là, comme ça. Là, on ne peut rien faire. De ce côté-là, de la rue Dauphine, on peut rentrer dedans. Là, vous voyez l'épaisseur des murs. Au-dessus, il y a le kiné. Mais de ce côté-là, il y a le piano Steinway. Et puis au-dessus, c'est des habitations. Elle est extraordinaire, cette cour. On l'a vraiment photographiée du sous-sol au dernier étage. Rive gauche, il y en a pas mal, hein, vous savez.
Il y a la coupe, là, quand on prend la rue qui passe devant le lycée Henri IV.
Ah bah oui, c'est Henri IV. Avec un soi-disant chemin de ronde qui n'en est pas un, en fait. Mais enfin, c'est assez impressionnant. Alors, lui aussi, c'est le bout de mur. On le retrouve partout, y compris rue Thouin. Oui. On le suit après jusque dans l'enceinte du lycée Henri IV. C'est très intéressant. Plus dans des sous-sols d'hôtels, rue Saint-André-des-Arts, enfin je vous cite comme ça, plus également dans le fossé, toujours sur la rive gauche, dans le fossé donc qui a été construit par Charles V après, le fossé existe toujours sous forme d'égout, plus vieil égout de Paris du XVIIe, XVIIIe siècle, sous le passage du commerce, passage de Rouen, etc. Voilà. Et ben, dans le sous-sol, vous avez un égout magnifique dont la photo est d'ailleurs de bouquin. C'est une tour de l'enceinte des Philippe Auguste, refaite par Charles V. D'ailleurs, vous voyez tout de suite, les meurtrières ne sont pas du tout pareilles. Et puis, elle est renflée comme ça, elle est donc postérieure à l'enceinte de Philippe Auguste. Mais elle est à l'emplacement d'une tour de Philippe Auguste. Mais elle est de 1350 au lieu d'être de 1200. Entre la rue Saint-Jean-et-des-Arts et le boulevard Saint-Germain. Il y en a des tas de petits bouts comme ça partout sur la rive gauche, qu'on ne voit pas toujours, mais enfin, il y en a. Le plus extraordinaire, c'est la rue Clovis, parce qu'il fait vraiment le tour du quartier, mais... Il faut grimper dessus, et pour grimper dessus, il faut des autorisations, des machins, des trucs. On le retrouve dans certains couloirs de la rue Descartes, etc. Mais là, c'est pareil, bon, les codes, les machins, enfin... Bon, bah, c'est un boulot quoi, à faire, et qui est passionnant, d'ailleurs.